Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Metal Story. Au sommaire de notre émission, les origines du mal, le live After Death, Overkill, le groupe absolu, So French, le coup de projecteur sur la scène française, et notre Wall of Death, questionnaire de rapidité et de sagacité.
On est en mission pour le Seigneur.
Bonjour à tous, bonjour Pascal.
Salut Yann.
On est ravis d'accueillir aujourd'hui Laurence Romance. Bonjour Laurence.
Bonjour, bonjour Laurence. À tous.
Alors
bonjour.
Laurence, c'est une journaliste, une rock critique, une traductrice. Elle a notamment travaillé pour Libé dans les années 90. Et surtout, c'est l'animatrice qui nous a fait découvrir via l'émission
La Figure.
La Figure de Rock Express sur M6. Plein de groupes qu'on écoutait à l'époque avec et passion. Oui. Et on est ravis de t'avoir dans cette Metal Story. Mmh. Et on est ravis surtout de t'écouter et d'entendre un peu tes coups de cœur. Et d'où vient cet amour de la musique et du métal ?
Eh bien, c'est réciproque. Je suis ravi de faire partie de ce nouvel épisode de Metal Story.
L'origine du mal.
Nous voilà dans les origines du mal.
Les origines du mal.
Eh oui, parce que...
Peux-tu préciser ?
Je vais préciser tout de suite. Nous avions besoin de savoir comment tu étais tombé dans le métal et comment tu avais pris goût à cette musique.
Alors, j'ai toujours trouvé la musique abrasive, on va dire, qui tabasse, plus excitante que, disons, Billy Joel ou Cat Stevens. Ou...
Je comprends.
Alors, peut-être qu'il y a un rapport avec le fait que je suis né dans un café. Mes parents tenaient
possible,
un café.
C'est possible.
Et j'y ai passé mes 10-12 premières années. Et donc, c'était un endroit... Évidemment, bruyant, agité et tout. Mais surtout, j'ai été biberonné dès mon plus jeune âge au rock de la fin des années 60 et du début des années 70 que mon frère aîné écoutait.
Et ouais.
Alors, il avait, c'était très singulier parce qu'il avait zéro disque, mais un magnétophone à bande et un pote qui lui amenait les disques. Et donc, il s'enfermait les deux dans sa piole et il enregistrait.
Et il copiait, en fait.
Oui, voilà. Ouais, il restait enfermé les après-midi entiers dans la piole du frangin pour enregistrer des kilomètres de bandes avec un micro d'ambiance. Hein. Mm-hmm. Donc, des fois, moi, je foirais tout en arrivant, parce que j'écoutais derrière la porte, en arrivant, bonjour et tout. Et donc, il faut qu'on recommence tout. Tu nous as tout foutu en l'air et tout. Bon, bref. Ensuite... Tout le monde en profitait parce qu'il n'arrêtait pas de passer. Donc sans, et ça c'est important, sans aucune image, puisque c'était des bandes. Mais moi, j'étais déjà systématiquement attiré par ce qui tabassait le plus, quoi. Ce qui faisait le plus de bruit parmi ces trucs. Quoi.
Très bien. Et donc tes premiers émois métalliques, tes premiers disques
Alors du coup, c'est peut-être Born to be Wild de Steppenwolf parce qu'il avait, il était fan, il avait plusieurs albums et donc ça c'était un hit international en 1968 et dans les paroles il y a d'ailleurs mais ça je l'ai su beaucoup plus tard ça parle de Heavy Metal Thunder ou alors c'est peut-être mais moi j'écoutais ça avec du décalage évidemment
bien sûr.
Parce que j'étais encore en couche culotte ou presque quoi.
Mais
You Really Got Me des Kinks qui est parfois considéré comme le premier morceau hard rock.
C'est vrai.
Et ça, c'est un titre qui a marqué un tournant décisif. Alors encore une fois, je l'ai su plus tard, mais c'est vraiment le moment où le rock devient basé sur des riffs.
Oui.
Voilà. Plus vraiment conçu pour faire danser ou taper du pied, et tout, mais pour te tétaniser, te coller
c'est
au
ça,
mur, quoi,
c'est ça,
scotcher.
C'est ça, bien sûr.
Je m'excitais que quand ça tabassait. Et donc, j'apprenais littéralement à marcher entre les brailleries des habitués du bistrot et les sons qui sortaient du magnéto de mon frère. Et donc, j'avais comme seul critère, j'avais pas de pochette de disque à décortiquer. Ouais. Donc, la musique était mon seul critère. Et j'aimais bien quand ça faisait du bruit. Voilà.
Et Led Zepp a joué un grand rôle, du coup.
Led Zepp, Led Zepp, c'est carrément le premier disque que j'ai acheté. C'était aussi un peu pour faire plaisir à mon frère, pour être Voilà, lui pensait faire mon éducation, ce qui était vrai d'une certaine façon. Donc en fait, il fallait que je. C'était pas pour le flatter, hein, mais bon, c'était en même temps. Bon, si j'achète ça,
c'est bien.
Je détonne pas. Il va pas te rejeter. Il va pas me rejeter. Ce qu'il a fait après ça. Avec d'autres disques. Quand on parle d'être fan, Led Zepp, j'étais fan. Mm-hmm. Mais bon, que de la musique, et c'est pas en achetant le Led Zepp 4 que j'ai pu en découvrir beaucoup plus, puisque comme chacun sait, sur la pochette, il y a un tableau avec un vieux mec et au milieu, je sais plus quoi, et enfin, il n'y a pas de photo du groupe, quoi. Par contre, quand mon frère a enfin fait l'acquisition d'une espèce de Tepaz horrible, années 70, avec des fleurs dessus et tout, le couvercle faisait office de haut-parleur, là.
Ouais, je vois.
Et il avait... Alors, je sais. Les gens pensent que je fabule parfois parce que c'est trop beau pour être vrai. Mais il avait que 5 albums. Ouais. Une merde de Grand Funk Railroad, une merde de 10 Years After, un album super sympa de Creedence Clearwater Revival, Cosmos Factory, et Miracle, le premier Stooges, et le Kick Out the Jams du MC5.
MC5, ouais.
Donc... c'est là que j'ai vu, et donc t'imagines le choc, vous imaginez le choc, les Stooges, la pochette, genre waouh, c'est la première fois que je voyais à quoi ressemblaient les rockers, entre guillemets, et j'étais servi quoi.
Carrément.
Il y avait un petit café, c'était une toute petite ville, mais il y avait quand même un café de Jones, avec un jukebox, et il y avait des trucs assez glam, Suzy Quatro, Sweet. Slade, Slade, j'adorais. Suzy Quatro, évidemment, avec en plus identification, puisque fille, donc Can the Can, 48 Crash, etc. Et après, Alice Cooper, et alors là, je deviens. C'est comme, je comprends très bien les adolescents qui sont tombés red dingue de Marilyn Manson, parce que moi, c'était pareil pour Alice Cooper.
Ouais.
Voilà, et donc je n'écoutais plus que ça, je convertissais mes copines d'école, on se maquillait comme Alice Cooper, avec les yeux, tout ça, machin. Je ne sais pas comment on faisait pour se démaquiller à l'époque, il n'y avait pas de lingette, mais enfin bon. J'avais l'album Killer avec le poster où Alice Cooper il est pendu, et que je l'avais accroché évidemment dans ma chambre, et que tous les soirs elle le décrochait, mais elle ne le déchirait pas en 1000 morceaux pour le jeter à la poubelle. Donc, je le retrouvais le lendemain et je le remettais. Et ça a duré comme ça un certain temps. Après, j'ai eu ma période Aerosmith.
Oui, parce qu'il y a quand même un...
Oui. Au moment de leur meilleur album aussi, hein, selon beaucoup de gens, Rox. Ça, j'adorais. J'ai essayé d'aller... tout ça, ça se passait dans le Nord, dans une petite ville de Pas-de-Calais. Enfin, là, j'habitais peut-être des... Non, j'habitais pas Lille. J'étais beaucoup trop jeune. Je voulais absolument aller les voir à Paris, mais bon, impossible. Donc, je bavais. Hein. Le seul truc qui aide bien dans une ville de province, c'est que tu es vraiment très pressé de t'en tirer. Ça, quel que soit le genre de musique que tu écoutes. De mon bled paumé, je suis allé à Lille sous prétexte de faire des études. Enfin, je les ai faites hein, quand même, mais c'était surtout pour être dans une grande ville où il y avait des concerts et la proximité de la Belgique. Et là, tous les Lillois, tous les gens, on a été privilégiés parce qu'on avait notre espèce de triangle d'or. Londres, enfin l'Angleterre pas loin, et Londres, là bon, c'est quelques années plus tard.
Ouais, bien sûr.
La Belgique, où on voyait les concerts avant même les Parisiens.
Ouais, ouais.
Et Lille, donc la Belgique est à 15 minutes, 20 minutes de. Et il y avait plein de trucs.
Ouais,
tous les disquaires aussi, les disquaires avaient les disques, avaient les imports anglais avec à peine une semaine de décalage. Quoi. Donc on pouvait suivre.
On comprend mieux le décalage culturel aujourd'hui avec la France.
Ouais, non, mais ils étaient très, très, très branchés. Ils le sont toujours, d'ailleurs.
Ouais, bien sûr.
Les Belges. Par contre, j'étais pas du tout Iron Maiden, machin, tout ça.
Pas
dans
la scène New Wave of
J'étais pas pure hard rock, machin, ou New Wave of British Heavy Metal, non. Non, même pour tout te dire, on était un petit peu snob par rapport à ça. On était cons, en fait, quoi.
Quand on allait voir,
c'était pour se marrer, pour dire tout ça, alors qu'ils étaient quand même super balèzes par rapport à nous qui étions des brêles incroyables. Fast forward, arrivé à Paris et tout, avec tous ces groupes que je commence à interviewer en plus.
Oui, bien sûr.
Gun Club, machin, tout ça et tout. Et d'autres dont je n'étais pas spécialement fan, mais que je commence à interviewer pour Libération, Def Leppard, etc. Motley Crue aussi, ça, j'étais période Motley Crue, j'adorais. l'album Dr. Feelgood.
Eh oui.
Et c'est à ce moment-là que je les ai vus. C'était super bien, super bien. Et puis, bah oui, Metallica, évidemment. Hein. Metallica au moment de Master, je crois. Slayer, Running Blood.
Que des petits jeunes.
Ouais, Motley Crue, Kickstart My Heart, qui est encore un de mes morceaux fétiches.
Ouais.
J'adore, je trouve que c'est génial, quoi.
C'est un morceau au fil rouge chez nos invités en général.
C'est vrai? Ah oui, non, mais il est juste parfait, ce morceau. On arrive dans les années 90.
Ouais.
Là, je vous épargne ma phase dance, rêve, ecstasy et tout, parce que là, c'est vraiment hors sujet pour le coup.
Ouais.
Mais j'étais à fond dedans.
On fera une émission spéciale
sur le sujet. Oui, oui, il y a un DJ quand même qui s'appelle Joey Beltram et qui est le premier mec qui a pensé à mixer du Metallica, du Slayer et tout avec de la techno.
Ah oui.
Voilà. Et arrive la révolution grunge avec Nirvana. Mm-hmm. Je n'ai pas découvert tout au début comme plein d'autres, pas au moment de Bleach, tout bêtement au moment de Nevermind.
Ouais.
Donc on me demande souvent si j'étais la première à écrire dessus. Non, mais dans un généraliste comme Libération, où j'ai passé 25 ans, oui. C'était mon espoir. Chaque rentrée, il y avait une semaine où c'était chaque jour ce qui se passait dans tel truc. Et j'avais écopé du truc métal parce que c'est moi qui me cognais tous les trucs depuis quelques années déjà, que j'aime ou pas, quoi. Que ce soit Def Leppard ou autre. Je suis allée voir un nombre incalculable de groupes en Allemagne. On avait chopé le virus de filmer. Ça m'embêtait de retourner à des gens interviewés sans les... Je me disais, merde, là, c'est marrant, il a une expression rigolote, etc., etc., et tout. Donc, je passe l'été 93 à passer des deals avec les maisons de disques en leur disant, si vous payez, c'est pas cher, hein, la loc d'une caméra, moi, j'ai un cadreur, j'ai mes potes de MCM.
Ouais, ouais.
Et puis, comme ça, je vous file une... À l'époque, on appelait ça des Electronic Press Kit. C'était la version en vidéo, en VHS, d'une bio.
Ouais.
Voilà. Donc, je passe l'été à faire ça. Je fais quand même pas mal de trucs, puis Jarvis et tout. Et Nirvana, en allant à Seattle pour Libération, à la base.
Ouais.
Et donc, je le filme comme ça. Et coup de chance incroyable. Enfin, bon, voilà. Alignement de planètes et tout, etc. Il était de bonne humeur. Il était bavard. Tout seul, ils faisaient leurs interviews séparément. Je l'avais déjà interviewé avant, mais avec le groupe. Ils faisaient leurs interviews séparément. Et j'ai, comme ça, 35 minutes, plein pot. Et il était assez candide, quoi. Il répondait à toutes les questions et tout. Et c'est comme ça que je me pointe à... L'idée était de démarcher pour pouvoir continuer une émission ailleurs,
quoi.
Et donc, du coup, à M6, c'est oui, puisque j'arrive en septembre 93 avec,
le
meilleur groupe du monde. À l'époque, et celui qui vend le plus, parce que c'était In Utero et non pas Nevermind, c'était septembre 93. Et donc L7, pourquoi L7? Parce que je les adore, parce que c'est un groupe de filles, parce que je les ai vues plein de fois sur scène. Elles bastonnent, quoi. Elles bastonnent vraiment, vraiment, vraiment.
Ouais.
Le seul groupe avec qui j'aurais pu hésiter, c'est Babes in Toyland, qui bastonnait tout autant. Mais j'aime bien Shitlist.
Donc, groupe de Los Angeles, formé en 85. Je précise qu'ils étaient, ils ont sorti notamment un album sorti sur Sub Pop, le fameux label.
Oui, absolument.
Et que c'est en 92 que L7 explose avec Bricks Are Heavy, justement.
Ouais.
Donc, qui se vend très bien et qui tourne surtout sur MTV. Et donc là, c'est un peu aussi
la
gloire.
C'était l'époque où MTV...
Poussait les groupes.
Exactement. Voilà.
Donc on s'écoute Shitlist de l'album Bricks Are Heavy, justement, le choix de Laurence.
Immortel.
Yeah.
C'était Shitlist de l'album Bricks Are Heavy, l'album qui avait cartonné de L7. Le groupe a continué, hein, bien sûr, mais cet album-là avait particulièrement cartonné.
A continué, même jusqu'à très récemment. Je l'ai vu il n'y a pas si longtemps, reformé à vrai. Paris. Et c'est c'était vrai. Encore super bien.
Et on va parler maintenant de tes expériences live.
Yes.
Alors, Laurence, est-ce que tu te souviens de ton premier concert de métal ? Anecdote, contexte ?
J'ai vu AC/DC avec Bon Scott, en première partie d'un groupe qui s'appelait UFO, en Belgique. Mais alors, très honnêtement, je m'en souviens qu'à cause de la dégaine d'Angus, parce qu'à ce moment-là, je devais être punk ou déjà gothique. Et... Donc, mes premiers concerts ne sont pas très intéressants, surtout pas très métal. Par contre, je peux dire, très dans le désordre, les trois groupes de métal qui m'ont le plus marqué en live, c'est Pantera, époque Far Beyond Driven, absolument... tétanisant.
Époustouflant.
Rage Against the Machine, que j'ai eu le temps, eu l'occasion, la chance de voir plusieurs fois, et époustouflant, avec Zach, le vrai Rage Against the Machine.
Le vrai line-up.
Et époustouflant aussi, enfin tétanisant au-delà de tout. Et surtout, parce que là c'est historique, c'est Nine Inch Nails au concert historique de Woodstock.
Ah oui.
Qu'on était allé filmer en petit pied nickelé avec Rock Express, à Troyes. Mmh. Donc voilà, au début, on était genre... On a vu plein de camions MTV, on s'est dit, qu'est-ce qu'on vient foutre là, à Troyes et tout. Mais en fait, la débrouillardise, le manque de moyens, ça nous a servi parce qu'on a fait un chouette 26 minutes où on a pu se faufiler partout. Et donc, et c'est comme ça qu'on a vu ce fameux concert qui a rendu... Reznor et ses copains légendaires, enfin surtout Reznor, parce qu'ils s'étaient couverts de gadou, comme le public, juste avant de monter sur scène. Et donc, il y a les fameuses photos que tout le monde connaît, où ils sont en homme...
Debout.
Ils sont en homme debout. Ils sont debout en homme debout. Et c'est vrai que le public, c'était pareil.
Hein.
Nous, on a filmé des mecs qui avaient fait des espèces de trucs
aussi.
Des toboggans et tout. M6 n'était pas content quand on a ramené les caméras parce qu'on les suivait. Donc voilà, ça c'était un concert vraiment historique.
Oui, ça, puis l'image est restée, elle est assez culte.
Elle est culte,
par rapport à un groupe qui par ailleurs est très sophistiqué. Donc il y avait un contraste étonnant.
C'était eux et Metallica, ou Metallica et eux, je ne sais plus. Mais c'était le climax, l'apogée de ce Woodstock 94.
Alors très bien. Alors maintenant, le dernier groupe que tu as vu et qui t'a mis vraiment une claque. Et pourquoi ?
Alors c'est très récent, mais c'est trois aussi en fait, je vais dire, parce que Hangman Chair, que j'ai vu très récemment, le 8 avril dernier au Trabendo. Et c'est vraiment un super bon groupe. Ils ont quelque chose en plus. Ils ont quelque chose en plus. Ils arrivent à transmettre quelque chose de très émotionnel, et très mélodique, tout en étant très lourd, sans jamais sacrifier Evanescence, quoi. Et avant ça, c'était avant la pandémie, c'est Alceste, magnifique, un autre groupe français.
Oui, bien sûr.
J'ai eu de la chance, c'était mon dernier concert avant que tout soit bouclé. Et je pourrais citer aussi Cult of Luna avant la pandémie, qui m'a renversé aussi. J'adore. Ouais.
Très bien. Alors maintenant, le groupe artiste que tu aurais voulu voir sur scène ?
C'est Power Trip, parce que. C'est plus possible depuis la mort de Raël. Enfin, si c'est possible, je pense qu'ils continuent.
Non, ils ont.
Ils continuent pas.
Pour l'instant, c'est arrêté.
No news.
Bon, ouais.
Riley Gale.
Ouais. Et alors tout le monde, je m'en veux d'avoir loupé un groupe aussi bon, putain, sur scène, parce que tout le monde m'a dit, ah ouais, tu les as pas vus.
Dommage.
C'était super bien et tout.
Et t'as choisi quel extrait de concert auquel tu as assisté ou par ailleurs que tu souhaites partager avec les auditeurs, les auditrices ?
Alors c'est pas tout à fait un concert en tant que tel, mais c'est du live. C'est l'incroyable prestation d'Alice in Chains chez David Letterman, le talk show américain, en 1996. C'est déjà assez tardif dans la carrière d'Alice in Chains, et Lane Staley, le chanteur, il est déjà plus au top de sa forme. Mais ce live est incroyable parce qu'ils font deux chansons en 3 minutes, là où d'autres groupes que nous ne citerons pas, progressifs et autres, il leur faut 12 minutes. Et il y a une transition juste mortelle qui colle au mur n'importe qui. Again, et ils arrivent sur We Die Young, et c'est juste mortel.
Et on écoute.
Mmh. Thank you very much. Welcome to the show. Thank you, sir. Pleasure to have you. Alice in Chains. Nice going. Thank you very much. Come here.
Alors Laurence, l'artiste qui a compté pour toi, ou le groupe, hein, parce que ça peut être un groupe également, pas forcément, on va dire, connu ou reconnu, mais en tout cas qui a traversé le temps et qui fait partie de ces groupes voilà, que tu aimes bien faire découvrir.
Alors, très bien. Ces deux derniers mots, là, je retiens, parce que justement, j'ai beaucoup réfléchi à votre concept là, de groupe absolu, et j'en suis franchement incapable de sortir comme ça de mon chapeau. Un seul groupe définitif, ultime, absolu, tout ça et tout, alors que j'en ai aimé, que j'en aime toujours plein.
C'est sûr.
Qu'il y en a toujours plein de géniaux, et que le genre appelé métal, contrairement à ce que certains pensent, a une diversité incroyable. Mais ça, vous le savez déjà. Donc, en fait, si vous voulez m'embêter, si vous me demandez.
C'est ça, nous, on est là pour t'embêter, en fait. Voilà. On est là pour t'embêter.
Donc, mais je pourrais citer Nine Inch Nails, dont on a déjà parlé, ou Alice in Chains, ou Faith No More, qui est tellement varié que ça pourrait être le groupe absolu, tellement ils abordent des choses. Et en plus, Mike Patton avec tous ses groupes. Essayons plutôt, si c'était possible, de réparer une injustice épouvantable, qui dure toujours, en parlant plutôt de Helmet. Voilà, alors Helmet, c'est un groupe qui est apparu à peu près à la même époque, début des années 90.
90, ouais, voilà, 89, pour être précis.
Ouais. Oui, au départ, ouais. Au départ, 89.
Groupe de New York.
D'abord sur des petits labels indépendants, ensuite ils ont signé sur une major. Et Interscope, je crois. Mmh. Et au début, je ne savais même pas, moi, c'est en révisant mon
Helmet.
Je ne savais pas qu'ils avaient vendu 2 millions d'albums, quand même. Quoi. Je croyais que c'était resté toujours assez... Mais non, étaient quand même, à un moment donné, avec MTV aidant,
oui,
etc. Et tout.
Sûr, ouais.
Ils ont quand même été, à un moment donné, vu comme The Next Big Thing.
Ouais. L'album Meantime, leur premier album de 92, a quand même marqué. Enfin, quand tu étais ado à cette époque, tu l'achetais, quoi.
Eh ben, j'en suis heureuse. Mm-hmm. Ouais. J'en suis contente, ouais. Nous, on en a fait une promotion éhontée, dès qu'on pouvait, dans Rock Express. Mm-hmm.
Et tu as choisi, Laurence, pour faire découvrir ce groupe, pour ceux qui ne le connaissent pas, à nos auditeurs, donc, tu as choisi un extrait de leur album de 97, qui est le troisième album,
troisième,
qui est l'album donc Aftertaste,
ouais.
Et t'as choisi le morceau Pure.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Of your hand, anything you're bearing conscience.
vient de s'écouter Pure de l'album Aftertaste de 1997. Et tu nous disais qu'il avait une histoire avec David Bowie.
Oui, oui, une histoire musicale, hein, bien
oui,
entendu.
Tu parles du guitariste.
Page Hamilton, oui. Page Hamilton, qui est le guitariste absolument exceptionnel. C'est un guitariste qui... Bon, il a été, si on aime les étiquettes, on pourrait dire que Helmet est un groupe post-noise, hardcore, machin, etc. En fait, ça emprunte à tous ces, oui, tous ces trucs-là. Et c'est principalement dû au guitariste qui... fait des trucs aussi dans le domaine de du jazz expérimental, ouais, etc. En fait, ce serait une espèce de Mike Patton,
ouais,
en version guitariste, en guitariste. Mm-hmm. Après, Aftertaste, il y a eu des changements de line-up, je ouais, pense, et tout. Et Page Hamilton dit lui-même, peut-être bien que c'est David Bowie qui m'a sauvé la vie,
ouais,
parce que fin des années, en 99, je pense, Bowie, qui cherchait un guitariste pour sa tournée, mm-hmm, l'a appelé.
Ah oui.
Et donc...
c'est pas mal.
Ouais.
C'est
pas mal. Ouais, 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 ouais.
C'est
et donc, chapeau David Bowie, qui avait quand même une vraie oreille.
On passe sans transition à la scène française.
Yes.
Laurence, on sait que, comme nous, tu es attachée à cette scène française, puisqu'elle est très riche et depuis des années, elle est au cœur un peu aussi de la scène métal, et encore plus, je trouve, ces dernières années. Et je voulais refaire un petit point avec toi, voilà, sur comment cette scène, toi, tu l'appréhendes. Est-ce que c'est une scène qui t'a longtemps parlé ou est-ce que c'est quelque chose que tu as plutôt découvert sur le tard, quel est ton rapport à la scène française métal?
Disons que je connais depuis longtemps, mais j'appréciais.
C'était pas ton cœur de.
Spécialement. D'écoute. Non, je pensais que pas mal de groupes étaient des copies, en moins
oui,
bien.
Ouais.
Avec une exception pour mes potes de Load Blast.
Oui.
On est du Nord.
C'est vrai.
Steph et moi, ça a toujours été vraiment
quali,
ce qu'ils font, bien ça a sûr, toujours été sûr, vraiment super. Quoi. Mmh. Récemment, je pense qu'elle est devenue particulièrement intéressante et variée et diverse
oui,
ces dernières années. Quoi. Mmh.
Pour preuve, tu as cité dans les lives que des groupes français, quasiment.
Quasiment, oui.
Ouais,
ouais,
les trois groupes français.
Ouais, ouais, non, Cult of Luna ne sont pas français.
Non, pardon.
Mais oui, non, mais c'est vrai, oui. Alceste, que j'adore. Mmh. Angmanscher.
Bien sûr, ouais.
Voilà.
Est-ce que tu es sensible à Gojira, par exemple?
Ah oui, bien sûr. Oui, oui. Gojira, oui. Oui, Gojira, oui. Oui. Comment les oublier, oui.
Parce qu'on est sur d'autres esthétiques que Alceste.
Absolument, etc., oui. Et Gojira, j'étais très contente aussi quand je faisais, quand je couvrais des Donington en Angleterre pour Libération, de voir qu'ils étaient déjà là.
Ouais.
Voilà.
Oui, sur, et dans, petit moment, hein,
ouais, sur des petites scènes, mais bon, ils étaient déjà là et tout, c'était déjà un petit cocorico, quoi, ouais, genre, ah,
et puis,
c'est
et
cool.
Et puis, tu l'as dit tout à l'heure, hein, on va pas, voilà, dévoiler un secret qui n'en est pas un, c'est ton fils, Perturbator, évidemment, qui est aujourd'hui un élément fort aussi de la scène synthwave française. Alors, on n'est pas métal, mais on n'est pas loin quand même.
Ah bah oui, parce que de toute façon, lui... à la base, c'est un métalleux,
ouais,
déjà, beaucoup plus qu'un gars qui écoutait de l'électro.
Mm-hmm.
C'est en fait un peu la fin qui a justifié les moyens, quoi. Il s'est mis au synthé pour pouvoir faire de l'électro brutal,
ouais,
donc
ouais,
enfin,
ouais,
mais, du métal,
mm-hmm,
pour lui.
Mm-hmm.
Mais à la base, ses bases, c'est le métal,
ouais,
comme sa maman. Il écoutait Pantera à 3 ans.
Ah bah voilà. Bon, les chiens font pas des chats, hein, comme dirait. C'est ça.
Et oui, tout à fait. Oui, oui. Lui et Carpenter Brut sont les deux fleurons de ce qu'on pourrait appeler la French Touch d'aujourd'hui.
C'est ça, oui. Et qui font partie des groupes qui s'exportent aussi, les groupes français.
Bah oui. Bah, qui ont même plus de.
Plus que s'exporter.
Ah, oui. Mmh. Mais en fait, c'est le même plan que Daft Punk, hein, si tu veux. C'est-à-dire, il a fallu que ça marche d'abord à l'étranger,
oui,
pour que la France s'y intéresse un peu.
Ouais.
Mais maintenant, bon, maintenant, mm-hmm. oui, ils sont reconnus.
On va parler d'Ozu, le groupe que tu voulais nous faire découvrir, puisqu'il est d'ailleurs signé sur le label de Perturbator. Hein,
ouais, le label Music of the Void.
Exactement.
Et c'est tout frais.
C'est tout frais.
C'est tout frais. Ça vient de sortir.
C'est ça.
Ça vient de sortir. Alors,
trio
c'est...
français, enfin, franco-suédois pour
oui,
le chant.
Oui, voilà, j'ai triché un peu. Mm-hmm. Mais bon, mais.
Ça marche.
Si, c'est français, c'est français. C'est français. Oui, il y a quand même. C'est du franco-suédois, c'est très du bien. Français.
On s'écoute un extrait de leur deuxième album, Overdriven Monsoon. Alors, on vient d'écouter un extrait de cet album Overdriven Monsoon, qui est leur deuxième album.
Voilà.
Et donc, ce petit groupe.
Parfaitement. Voilà. Ce dont on parlait avec oui. le mélange, les, etc. et tout, parce que si on peut aussi dire, on pourrait aussi bien les qualifier de. Il y a du métal, il y a de la synthwave, il y a des envolées, il y a pas mal de cold wave, mm-hmm. il y a des trucs. Mm-hmm. Il y a un chanteur absolument fabuleux, mm-hmm. que d'ailleurs Carpenter Brut comme Perturbator se sont appropriés parfois pour des morceaux, certains de leurs titres. Oui.
Pour la petite anecdote, le groupe s'appelait Trumps.
Oui.
Ils ont changé de nom parce que...
Devine quand, en 2016 ?
Voilà, on ne sait pas pourquoi, on en a une petite idée. Et ils sont du Poitou, on salue nos amis du Poitou. Voilà.
Bonjour.
Bonjour le Poitou. Je vous propose de passer à la dernière rubrique, le fameux Wall of Death. Alors c'est parti pour notre petit Wall of Death, donc effectivement des petites questions-réponses, tu développes ou pas, comme ça te branche, et on commence avec une petite question simple, tu es plutôt romance, Kent ou les deux ?
Ah dur.
Pas facile hein, ça.
Eh bien on va dire... Ça pourrait être une réponse différente à un autre moment de ma vie. Mais là, c'est plutôt Kent, puisque je viens d'achever la traduction du premier roman du papa de Perturbator.
Yes, tout
à voilà. fait. Donc, pour l'instant, on va dire plutôt Kent.
Très bien.
Même si cette traduction, je l'ai signée Laurence Romance.
Je comprends.
Ok, Laurence. Plutôt Marilyn ou plutôt Manson ?
Plutôt Manson, mais Charles.
Yes. Plutôt Nirvana ou Alice in Chains ? Attention, ça c'est plus compliqué.
C'est très compliqué.
Ouais.
Mais
de cœur, un peu les deux forcément.
Oui, Alice in Chains à cause de l'Unplugged, que je trouve supérieur à celui de Nirvana qui est pourtant déjà intouchable. Mais celui d'Alice in Chains est encore plus intouchable.
Peut-être dans la durée, Alice in Chains est resté plus marquant.
Peut-être parce qu'on nous a moins rebattu les oreilles avec aussi.
C'est possible, oui. Ouais.
Le métal, le rock à la télé, c'était mieux avant ?
Ah ben, il y en avait déjà. Donc forcément, forcément, quand il y en avait, c'était mieux avant, oui. Puisque là...
Là, il n'y a plus rien.
Oui, là... Enfin, que je sache, hein, ouais, vous savez peut-être mieux que moi. Moi, je ne regarde pas. Mais
non, on le déplore aussi. Hein.
Non, il n'y en a plus. Hein.
On confirme.
On confirme, oui. Mais en même temps, ce n'est pas tant à déplorer. Il n'y a pas, puisque on n'a plus besoin de la télé pour...
Non, c'est vrai. Mais c'était une époque quand même assez bénie de pouvoir voir des lives dans nulle part ailleurs, dans Rock Express.
Absolument. C'était d'ailleurs la raison d'être de Rock Express. On s'était dit dès le début, le but de cette émission, ce n'est pas de montrer nos tronches ou quoi que ce soit, c'est de mettre du live.
Oui.
Pour que le gars qui habite en Rascambousse ait une idée de ce que ça donne sur scène, n'importe quoi, Oasis ou Soundgarden ou Korn, avant d'y aller, de dépenser ses sous, etc.
Alors, si tu pouvais être une petite souris, et dans l'éloge de quel artiste culte tu aurais aimé te faufiler ?
Waouh !
Pas facile.
Ah
hein.
Non.
Une mouche, j'aurais pu dire une mouche, mais c'était
mais
moins
marrant,
classe.
Oui, Fly on the Wall. Se faufiler pour voir quoi ? Il faut se faufiler pour voir des choses intéressantes.
C'est ça.
Donc.
Les artistes un peu sulfureux, peut-être.
Ben voilà. Qui c'est qui se drogue beaucoup ?
un des membres de Motley Crue.
Bah, figure-toi que j'aurais pu, parce que je les avais fait en 85, et leur loge, c'était... ils écoutaient justement du glam à fond, mais ils avaient le pied qui était dans leur loge. Hein. Et ils m'avaient proposé de rester un peu après l'interview, mais non.
Mais non.
J'ai trouvé. C'est pas des loges. J'aurais bien aimé être là quand Axl Rose a engueulé Faith No More. Qui leur avait fait une blague ou je sais pas quoi.
Enfin, Paris, puis,
ou alors il était juste de mauvaise humeur ou son astrologue lui avait dit que c'était un mauvais jour. Et il les a fait appeler dans sa loge perso après un concert. Donc, ils faisaient une tournée ensemble dont ils se sont fait lourder, je crois, peu de temps après.
Ouais, ouais.
Et il les a pourris et tout.
T'aurais bien aimé le voir, ça.
Et donc ça aurait été super drôle de voir ça. Ouais.
Très bien. Yann ?
T'es plutôt femme des années 80 ou femme 2020 ?
2020. 2020. Enfin, ouais, je l'ai été dans les années 80, mais je faisais ma si-ou-si un moment. Et puis... Mais non, 2020, non, pas de nostalgie. Maintenant.
Maintenant, c'est maintenant.
Maintenant, oui, c'est maintenant.
Cool.
C'est maintenant que ça se passe.
Bah oui.
C'est maintenant que ça se passe.
eh bien, on arrive au bout de notre questionnaire.
Voilà, et un endroit où j'aurais pas voulu être, c'est dans le sac à main de la copine de Jimmy Page dans un avion, quand John Bonham, pour lui montrer ce que c'était que le rock and roll, mais a fait caca dans son sac à main de la fille.
Ah oui, c'est. Oui,
c'est... Oui, c'est une époque.
C'est
toute une époque.
C'est
oui.
Ça, une autre époque. C'est une très belle anecdote.
Mais oui, on n'aurait pas à mettre dedans.
Je te remercie.
On va même se quitter sur
cette belle anecdote.
Parole. Franchement, il n'y a pas mieux comme conclusion, en fait.
On te remercie, Laurence.
Là où il fallait être et là où il ne fallait pas être.
C'est ça, pour cette belle anecdote et surtout pour tout ce que tu nous as raconté avant, qui était hyper, hyper bien.
C'est my pleasure.
C'était un grand plaisir.
Mon plaisir.
Merci, Laurence. Et on rappelle que tu viens de traduire le livre de Monsieur Kent. Donc son premier roman, c'est ça?
Voilà, c'est son troisième livre, son premier roman.
D'accord.
Il s'est lancé dans le roman et là, c'est très très bien, on est très contents puisque les critiques sont unanimement enthousiastes.
Dithyrambique.
Ouais, voilà.
Magnifique.
Ça valait le coup de se faire chier parce que c'était pas facile.
Le titre du roman peut-être?
The Unstable Boys.
Aux éditions?
Sonatine. Il y a du polar, mais il y a aussi du rock dedans.
Cool. Super. Voilà. On rappelle que tu écris aussi pour Blast, notamment, que tu continues à écrire.
Que je vais recommencer à écrire pour Blast, parce que je m'étais mise en stand-by justement pour cette traduction.
Pour la traduction, tout à fait.
Mais je vais recommencer.
Super. Et on remercie nos partenaires, évidemment, de la Dami qui nous soutiennent et de la SACEM. Et on va se quitter en musique, évidemment, avec un morceau de Perturbator.
C'est ton choix.
C'est mon choix. C'est notre choix.
Je ne fais pas de népotisme.
Non, exactement. Et nous, on l'assume. On est très contents de le passer. Le morceau s'appelle Lustful Sacraments. C'est un morceau de l'album qui est sorti l'année dernière. Du même titre, exactement. Et on se dit à une prochaine Metal Story.
À bientôt. Merci tout le monde.